Bonjour. Ça fait plaisir de voir tout ce monde. Ça fait plaisir d'être dans la joie du Seigneur, d'être dans son esprit, dans sa présence, de voir sa fidélité. Je suis réjouie. Aujourd'hui, on va continuer à étudier le livre des Actes. On arrive au bout, presque au bout de la première partie. Vous savez que le livre des Actes, les 12 premiers chapitres du livre des Actes nous parlent essentiellement de Pierre, ou plutôt ça parle des œuvres de Jésus-Christ, mais au travers d'un apôtre en la personne de Pierre. Le livre des Actes, il est partagé en deux principalement, de 1 à 12, c'est des chapitres où les œuvres de Dieu sont manifestées au travers des apôtres, mais de Pierre en priorité. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au bout, c'est l'apôtre Paul qui a le rôle principal. Alors, aujourd'hui, je vais encore vous prêcher sur cette première partie du livre des Actes, peut-être encore la prochaine fois, mais pour tout ce qui concerne Paul, ce sera plus tard. Après, on va changer de livre. Mais aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui est un texte qui est extrêmement important, parce que c'est dans ce texte qu'il nous est parlé d'un tournant dans l'histoire de l'humanité. Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Si vous avez des Bibles version téléphone portable, n'oubliez pas de les mettre sous mode avion. Et même si vous ne suivez pas avec moi. Et si vous voulez juste écouter, écoutez. Le texte sera un peu long, alors concentrez-vous bien. Mais vu que je n'aurai pas le temps de relever tous les éléments, parce que c'est un texte qui est tellement riche, je vous propose de repérer deux choses. Durant cette lecture, repérez l'état de cœur, le caractère des deux personnages principaux, Pierre et Corneille, et essayez de repérer l'action divine. Repérez l'action de Dieu. De quelle manière est-ce que Dieu intervient dans ce texte? Vous verrez, il y a toutes sortes de manières de faire. Alors, acte 10, tout le chapitre de acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur !» Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Quelle grande leçon d'humilité! Quelle grande leçon d'éthique! Pourquoi une grande leçon d'éthique? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Avec qui est-ce qu'on peut fraterniser? Avec qui est-ce qu'on ne peut pas fraterniser? Vous êtes d'accord avec moi, l'histoire, elle est longue. Et il y a plein de répétitions. Dans cette histoire, et je vous ai pas tout lu, parce que, en fait, l'histoire, elle va jusqu'au chapitre 11, le verset 18. Et dans tout ce passage-là, 3 fois, il est question de la vision de Pierre. Et 3 fois, il est question de la visite de l'ange à Corneille. L'histoire est répétée. Et si elle est comme ça répétée, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Et c'est fondamental au niveau de la proclamation et de la réception de l'Évangile. Ce passage-là, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais revenons un petit peu dans le contexte pour resituer l'histoire. On a suivi le début de l'Église. Et à un moment donné, il y a Étienne qui s'est fait lapider. Les disciples se sont dispersés hors de Jérusalem à cause de la persécution. Et on a vu que Philippe, qui n'est pas un des 12, mais un des disciples qui a suivi Jésus de loin, il est parti avec un ministère extrêmement puissant. Et il a commencé à aller de ville en ville et d'évangéliser, et des nouvelles églises ont vu le jour. Et à un moment donné, il y a Pierre qui quitte Jérusalem pour aller visiter toutes ces églises et pour quelque part attester le travail de Philippe pour le confirmer. Alors je vous partage juste maintenant, est-ce que tu peux mettre, Héloïse, l'écran pour que tout le monde voit? Merci. Est-ce que vous voyez ma souris ici qui bouge? Oui. Jérusalem. On ne voit pas bien, mais c'est juste pour que vous situiez un tout petit peu. Pierre sort de Jérusalem, il va de ville en ville voir l'œuvre que Philippe a fait, visiter les églises, puis à un moment donné, il se trouve ici, où il y a le petit rond rouge, à Lydd. Et à Lydd, il guérit un homme qui s'appelle Aîné. Et les gens se parlent, ils se disent, il y a Pierre qui est dans telle ville. Et ils font appeler Pierre à Joppé, qui est Jaffa, encore aujourd'hui, au bord de la mer. Et là, ils lui présentent une femme qui est décédée, une femme qui s'appelle Tabitha ou Dorcas. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il prie et il ressuscite Tabitha. Et c'est là que Pierre loge chez Simon le corroyeur au bord de la mer, corroyeur ou tanneur. Et c'est une fois qu'il est à Joppé qu'il se fait appeler pour aller dans la ville de Césarée. Corneille, il est établi à Césarée. Il y a environ 50 kilomètres, environ 1 à 2 jours de marche. Voilà, je vais enlever mon ordinateur pour qu'il ne soit pas dans mon champ de vision, ni dans le vôtre. Comme ça, vous situez un tout petit peu où se passe l'histoire. Alors voilà, Pierre, il est appelé à Césarée. Corneille, il est basé à Césarée. Césarée, c'est une ville portuaire. Son port, il est truffé de nouvelles technologies. C'est un port magistral. Et cette ville, elle a été construite dans les années environ moins 10 avant la naissance de Jésus-Christ par Hérode le Grand. Et elle est célèbre pour sa beauté. Il y a des grands édifices, comme par exemple un énorme théâtre qui peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Il y a aussi un temple, parce que les Romains, et en fait toute la population non-juive, a beaucoup de dieux, est idolâtre, et il y a un magnifique temple, et dans ce temple, une statue colossale de l'empereur Auguste, parce qu'il y a le culte impérial. Et il y a aussi une statue colossale de la déesse Roma, la déesse de Rome. Parce qu'en réalité, Césarée est destinée à être l'une des grandes villes de l'Empire romain. C'est le siège du pouvoir romain en Palestine. Alors, toute l'atmosphère respire Rome. Les soldats sont partout, Rome est omniprésente et il y a une importante garnison romaine. Et Corneille est un des chefs de cette garnison romaine. Donc, en quelque sorte, il représente l'occupant ou une partie de l'occupant. Il n'est pas à plaindre, Corneille. En tant que centenier, il a environ une centaine d'hommes sous ses ordres. Il a une position sociale élevée et il est de conditions aisées parce que sa solde, elle est de 15 fois supérieure à celle des soldats. C'est quelqu'un qui ne manque de rien. Il n'a rien à envier à personne. Et pourtant, sa consécration frise l'excellence. Qu'est-ce qui nous est dit de Corneille? Il est pieux et il craint Dieu. Il est un craignant Dieu. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas juif, il est romain. Il ne s'est pas fait circoncire, mais il a adopté la foi juive. Corneille, il a reconnu qu'au-dessus de l'empereur, qu'au-dessus des idoles, qu'au-dessus de la déesse de Rome, il y a un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, et que c'est à lui qu'on doit rendre un culte et que c'est lui qu'on doit craindre. En tant que craignant Dieu, certainement que Corneille, il fréquente la synagogue. Certainement qu'il entend des choses, des enseignements sur l'Ancien Testament. Mais en plus de ça, il est pieux. Ça veut dire qu'il vit une vie de piété, une vie de prière, une vie de consécration. Et à cela, il ajoute des aumônes. Donc, il excelle dans sa vie spirituelle et il excelle au niveau social, au niveau relationnel. Ses aumônes, les dons qu'il fait, c'est pas aux Romains, c'est pas pour enrichir l'Empire, c'est au peuple. Alors qu'il est l'occupant. Corneille, il frise l'excellence. Et là, il y a déjà un enseignement pour nous. Imaginez l'humilité de ce gars. Il pourrait juste bénéficier de son statut. Il pourrait même plus qu'en bénéficier. Il pourrait en profiter. Mais au lieu de regarder à son propre intérêt, il regarde les intérêts de Dieu. Alors il prie continuellement et il fait des aumônes. Et en plus de ça, il le fait avec toute sa famille. Il réussit à influencer la sphère que Dieu a mise autour de lui. Il est dans l'excellence. Ça nous parle, ça nous remet en question. Mais par contre, ce n'est pas suffisant. Corneille, il peut aller jusqu'au bout de l'excellence, ça ne suffira pas. Parce que Corneille n'est pas sauvé. Il peut avoir une vie religieuse ou de consécration à 100%, il est quand même tout entier rempli de péché, parce qu'il n'a pas connu Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas été purifié par le sang de Jésus. Les œuvres, elles doivent confirmer la foi, elles doivent confirmer le salut. Mais elles ne peuvent pas remplacer la foi et le salut. Ce n'est pas par notre mérite qu'on peut être sauvé. Mais ce message, il nous dit que tous nous sommes remplis de péchés. Corneille aussi. Et Corneille, peut-être même qu'il ne l'a pas vraiment compris. Mais lui, ce qu'il a compris, c'est qu'il y a un Dieu qui est supérieur à tout. Alors, déjà ce qu'il a compris, il le met en action et il se met à craindre ce Dieu vivant. Alors quand on est en présence d'un homme qui a une telle consécration à Dieu, qui est tellement authentique dans sa recherche de Dieu, Dieu il regarde parmi les hommes et il dit « Celui-ci, c'est lui que je vais utiliser. C'est par lui que je vais changer le cours de l'histoire, parce que j'ai vu son cœur et je sais que je peux lui faire confiance. » Parce que dans le cœur de Dieu, il n'y avait pas seulement la vie de Corneille. Bien sûr, Dieu s'est dit, son cœur est droit, son cœur est juste, il me cherche, je vais me laisser trouver à lui et je vais restaurer sa famille. Mais Dieu, il va beaucoup plus loin que ça. Dieu est en train de se dire, par la vie de cet homme, je vais toucher toutes les églises environnantes. Et je vais toucher les églises d'Asie. Et je vais toucher les églises de tout l'Orient. Et je vais toucher les églises qui vont prendre naissance en Europe. Et celles qui vont prendre naissance dans les Amériques. Et en Afrique. Et partout. Partout, ou jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, dans son cœur, quand il s'est dit « Je choisis Corneille », il voyait déjà l'église évangélique de Réveil de la Chaux-de-Fonds. Mais il fallait trouver quelqu'un. Ça n'allait pas venir comme ça. Notre église, elle ne pouvait pas naître comme ça. Il fallait une porte ouverte. Il s'est dit « Ça va être Corneille. » Parce que c'est un homme juste, c'est un homme authentique, rempli d'humilité, qui me cherche. Alors, vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures de l'après-midi, c'est pas anodin, cette heure-là, c'était l'heure de la deuxième prière du jour pour la foi juive. À cette heure-là, Corneille prie, et à un moment donné, le ciel s'ouvre, et paf, Dieu envoie un ange vers Corneille pour lui dire « Tes prières ont entendu et Dieu s'en est souvenu. » Dieu s'en est souvenu, comme quand les Juifs, le peuple hébreu, fait des sacrifices de bonne odeur, et Dieu se souvient d'eux, parce que le sacrifice monte vers Dieu. Dieu est en train de lui dire, ce que tu fais dans tes prières, c'est comme un sacrifice de bonne odeur qui monte vers moi. Et moi, je me suis souvenu, alors je descends vers toi. Il y a un mouvement de verticalité entre le ciel et la terre. Corneille se fait visiter par le Seigneur. Et il lui dit, Corneille, je t'ai entendu. Mais il te manque quelque chose, va chercher Pierre. Pierre, c'est celui qui vit chez Simon le corroyeur, à 50 kilomètres de là. Chez Simon, va au bord de la mer, parce que c'est là qu'il est, c'est là qu'il vit, et Pierre loge chez lui, vas-y. Alors Corneille, il est effrayé, il s'attendait certainement pas à ce que Dieu vienne le rejoindre, lui qui n'est pas juif, mais il obéit. Et il trouve trois personnes qui lui sont attachées, trois personnes qu'il a déjà influencées parce que c'est des personnes qui ont aussi une vie de piété. Et ces hommes vont chercher Pierre. Ce qu'il faut retenir de tout ce premier passage, c'est que nos œuvres ne sont pas suffisantes. Mais notre humilité, notre disposition de cœur va faire que le ciel peut s'ouvrir. Et qu'on peut être utilisé par Dieu pour changer le cours de l'histoire, selon le plan que Dieu a déterminé d'avance. Si Corneille prie, Pierre prie aussi. Pierre aussi est un homme de prière. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que Pierre, il est parti de Jérusalem pour aller visiter les églises. Et quand on l'appelle pour aller à Lydde, il va à Lydde. Et quand quelqu'un lui dit « on a besoin de toi à Jopé », il va à Jopé. Puis quand on lui dit « on a besoin de toi à Césarée », il va à Césarée. Pierre, il est aussi dans l'humilité, il est dans l'obéissance à Dieu. Il a un caractère bien cogné, Pierre. Il dit pas toujours oui du premier coup, mais il obéit. Il a besoin de comprendre, il est frontal. Mais il obéit. Il a un cœur consacré au Seigneur et consacré pour toutes ces personnes. Chaque fois qu'on l'appelle, il y va. Il voit un malade, il le guérit. Et voilà que, à la sixième heure, c'est-à-dire à midi, il va sur le toit, c'est-à-dire les maisons avaient des toits plats, le toit en terrasse, il va là en haut pour prier, en attendant qu'on lui fasse à manger parce qu'il a faim. Mais il prie. Voilà comment est-ce qu'il utilise son temps libre. Il prie. Et à un moment donné, on ne sait pas trop si c'est la faim qui fait ça, on ne sait pas s'il est dans un demi-sommeil, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il en est, mais dans sa prière, pour lui aussi, le ciel s'ouvre et qu'est-ce qui descend du ciel? Une nappe avec tous les quadrupèdes de la terre, les oiseaux du ciel, toute cette création qui descend devant lui, et une voix qui lui dit « Pierre, tue et mange !» Imaginez un peu la scène. Il y a une loi, on peut lire dans le chapitre 11 des Lévitiques, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais qui explique par le détail quels sont les animaux purs et quels sont les animaux impurs, lesquels est-ce qu'on peut manger, lesquels est-ce qu'on ne peut pas manger. Et Pierre, depuis tout petit, il n'a jamais mangé un animal impur parce qu'il est juif, hébreu né d'hébreu, il est juif Pierre. Alors il ne va jamais prendre le risque de se souiller. Et tout à coup, il voit une vision, mais comme si c'était tout le contenu de l'arche de Noé qui descend du ciel devant lui. Et il y a un sacré problème, parce que tous ces animaux, ils sont dans la même nappe. Il y a des animaux purs, il y a des animaux impurs. Mais vu qu'il y a des animaux impurs, vu qu'ils sont tous mélangés, eh bien, ils ont contaminé tous les animaux purs. Donc Pierre ne peut même pas aller choisir. Je vais aller prendre tel animal, tel... Non, ils sont tous souillés, ils sont tous impurs. Et il entend une voix, il reconnaît que c'est la voix du Seigneur. Il n'y a pas un seul moment où Pierre y met la parole de Dieu en doute. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui dit « tue et mange ». Et lui dit « mais non Seigneur, mais non ! » Est-ce que c'est un défi ? Et depuis tout petit, j'ai jamais rien mangé d'impur. C'est ancré en moi, mes parents n'ont rien mangé d'impur, mes grands-parents non plus, mes arrière-arrière-arrière-grands-parents non plus, c'est dans mes gènes, c'est dans mes cellules. Rien d'impur n'est jamais entré dans mon corps et tu veux que je tue et que je mange ? C'est pas possible. Mais par trois fois, Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Pierre, il est apôtre. Pierre, il a fait des miracles jusqu'à ressusciter quelqu'un. Mais il n'a pas tout compris. Lui aussi, comme Corneille, il a besoin de passer un palier supérieur. Au niveau de sa foi, au niveau de ses compréhensions spirituelles, il y a quelque chose de nouveau qu'il doit comprendre. Essayez de comprendre le principe. En réalité, je vous ai dit que c'était une grande leçon d'éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, avec qui est-ce qu'on peut fraterniser, avec qui on ne peut pas fraterniser. En réalité, la question n'est pas « quoi ?». Ce n'est pas « qu'est-ce qu'on peut manger ?». Mais la question, la vraie question, c'est « qui ?». Avec qui est-ce qu'on peut manger qu'on ne peut pas manger ? Qui est pur et qui est impur ? Cette nappe, ça représente tout le contenu de l'Arche de Noé. Il y a une valeur créationnelle. Il y a une valeur universelle. Ce que Dieu est en train de dire à Pierre. En fait, vous êtes tous dans la même nappe. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi, tu as été rempli de péché. Toi aussi, tu as eu besoin du salut. Et si vous avez fait attention à l'histoire, Pierre, il est en plein paradoxe. Parce que Pierre, où c'est qu'il loge? Pierre, il loge chez Simon le corroyeur ou Simon le tanneur. C'est quoi un tanneur? Un tanneur, c'est quelqu'un qui fait du cuir. Et comment est-ce qu'on fait du cuir? Ben avec de la peau d'animal. Et s'il habitait au bord de la mer, c'était parce qu'il avait plein de carcasses d'animaux chez lui, qu'il fallait les préparer, les nettoyer, enlever la peau, etc. Je ne sais pas toutes les techniques pour tanner du cuir. Mais rien que le fait que Simon touche des animaux morts un peu toute la journée, tout ce qui touche chez lui est contaminé, tout est impur, sa maison est considérée comme impure. Et pour les Juifs, aller chez un tanneur, ça ne se fait pas parce qu'on va se souiller. Et Pierre, il loge chez lui. Mais il ne veut pas manger d'un animal que Dieu lui dit « tu y manges ». Il est en plein paradoxe. Pierre est complètement souillé lui aussi. Et si on réfléchit un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on fait avec du cuir? On fait des sandales, on fait des ceintures, on fait des bourses, on fait des manteaux. Qu'est-ce qu'on fait avec du cuir? Le cuir, même quand il est cuir, c'est quand même toujours un animal mort. Donc c'est toujours impur. Donc en fait, la pureté au niveau humain, elle n'existe pas. Parce qu'on a tous besoin du sang de Jésus. Alors là, il y a encore une leçon pour nous. Pour Pierre, c'était important. Il savait que la loi de Dieu disait « ne mange pas d'animaux impurs ». Et c'est tout à son honneur le fait que Pierre voulait respecter la loi. Mais parfois, on a des principes qui sont tout à notre honneur, des principes qui sont justes. Mais des fois, on est buté sur nos principes. Et à cause de nos principes, on ne voit pas que parfois, il y a des choses encore plus grandes. On doit comprendre des choses supplémentaires. Ça me faisait penser à l'histoire des sages-femmes dans le livre d'Exode. Est-ce que vous vous souvenez de ces sages-femmes? Pharaon a dit aux sages-femmes, « Tuez les premiers-nés mâles. Chaque fois que vous allez accoucher des femmes hébreux, allez tuer leurs premiers-nés si c'est des mâles, si c'est des filles, laissez-les vivre. » Et elles ne l'ont pas fait. Et quand Pharaon les a fait venir pour leur demander des comptes, elles ont dit « Ouais, mais en fait, les femmes des Hébreux, ben, elles sont vigoureuses, elles accouchent avant qu'on arrive. » Monstre mensonge. Et Dieu a béni ces femmes. Pourtant, plus tard, quand il donnera la loi, il va dire « Tu ne mentiras pas, tu ne rendras pas de faux témoignages. » Mais parce que en mentant, elles ont préservé la vie. Et la vie est plus importante. Parfois, on doit dépasser certains principes. Parfois, il y a nos compréhensions qui doivent être un petit peu chamboulées. Et ce n'est pas forcément facile. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir un cœur qui se laisse enseigner par le Saint-Esprit. C'est là qu'il est nécessaire d'être enseignable. Et c'est le cas de Pierre. Pierre, il est interloqué, il se dit « mais c'est quoi tous ces animaux impurs mélangés et Dieu me demande de manger ?» Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Mais l'Esprit lui dit, il y a trois hommes qui te cherchent. Vas-y sans hésiter, c'est ok. Tout va bien, tout va bien. Il est ébranlé, mais tout va bien. Ces trois hommes arrivent et Pierre obéit et il les suit. Ils font leurs deux jours de marche et dans l'après-midi, ils arrivent chez Corneille. C'est vraiment intéressant de voir comment se comportent ces deux hommes. La rencontre entre Pierre et Corneille. Autant l'un que l'autre a quelque chose à nous dire. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Imaginez, c'est vrai, Pierre, il est apôtre. Mais on ne sait pas ce que Corneille savait exactement de lui. Mais Pierre, d'abord, il est juif, c'est-à-dire qu'il est sous l'occupation romaine. Donc, en fait, il est sous l'autorité de Corneille. Pierre, il a très peu d'instruction. Il commence à avoir une bonne instruction spirituelle, mais sinon, il est pêcheur de poissons. Et Corneille, qui lui a une position sociale extrêmement élevée, qui représente l'occupation romaine, il se prosterne devant Pierre. Vous imaginez son cœur? Vous imaginez l'humilité de Corneille? Mais Pierre le releva en disant, Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Pierre, lui, il est exactement dans la même position que Corneille, parce que lui aussi, quelque part, il a un poste élevé du fait qu'il est apôtre. Il est un des apôtres principaux, si on peut dire comme ça. Il a fait des miracles, des résurrections. Il voit qu'il est utilisé, qu'il a la puissance de Dieu en lui. Il aurait pu se dire, non, mais moi je suis apôtre, c'est ok, mais je t'en prie Corneille, relève-toi seulement. Tout va bien aller. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi je suis un homme. On est des vis-à-vis. On est fait de la même pâte. On est dans la même nappe. Tout mélangé, tous ensemble. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes besoins. Ce qui me touche particulièrement dans l'attitude de ces deux hommes, c'est qu'ils se respectent profondément. Corneille respecte profondément tout ce que Dieu a mis dans Pierre. Et Pierre respecte profondément tout ce que Dieu a mis dans Corneille. Tous les deux reconnaissent que Dieu est en train de faire quelque chose. Corneille, il s'attend à ce que Dieu va faire dans Pierre. Quand il s'est prosterné devant Pierre, c'est comme si, en fait, il se prosternait devant Dieu dans le sens où Dieu m'a dit d'aller chercher Pierre. Donc, c'est dans la crainte de Dieu que je fais ça. Et Pierre, qui respecte Corneille, c'est parce qu'il sait que c'est Dieu qui a dit à Corneille d'aller le chercher. Donc, que Dieu a un plan, mais il sait encore pas ce que c'est ce plan. Il sait encore pas pourquoi il est là. Mais tous les deux, en fait, en leur cœur, comme on l'a chanté ce matin, comme on l'a prié ce matin, tous les deux, en leur cœur, en fait, dirigés vers le haut. Il y a toujours ce mouvement vertical entre le ciel et la terre. Leur attention, elle est fixée en haut, vers Dieu. Mais ils savent que Dieu utilise des hommes. Alors ils se mettent en vis-à-vis, au même niveau. Alors Pierre, il dit, ben voilà, j'ai compris que Dieu ne faisait pas de favoritisme. Vous m'avez invité chez vous, je vois que vous avez réuni tout du monde, mais je vous le redemande encore une fois, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le motif? Pourquoi m'avez-vous fait venir? Et Corneille explique à Pierre, ben voilà, j'étais en train de prier, un ange est venu, il m'a dit d'aller te faire chercher, du coup j'ai réuni tout ce monde, et puis ben voilà, on attend ce que le Seigneur t'a dit de nous dire. Et tous, ils ont les yeux fixés sur Pierre, en se disant, mais qu'est-ce que Dieu va dire au travers de cet homme? Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Tous les cœurs de ces gens sont tendus vers Dieu. C'est à Dieu qu'ils s'attendent. Et là encore, c'est tellement important qu'on comprenne pour nous, mais d'où est-ce qu'on attend le secours? Est-ce que c'est quand un prédicateur vient? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de nous? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est Dieu qu'on attend au travers d'un message, au travers d'une prière, au travers d'un mot d'un frère et d'une sœur? Parfois, on a des attentes envers des gens qui ont quelque chose qu'on aimerait avoir, ou on a des attentes envers les gens qui font que ça fausse les relations. Mais notre attente, elle devrait toujours être tournée vers Dieu. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que Dieu utilise l'un, l'autre, pour venir nous rejoindre. Mais donnons gloire à Dieu. Alors imaginez, tout le monde est chez Corneille. Pierre, il est là, il a 6 gars, 6 juifs qui sont avec lui, qui ont fait le voyage, et puis il y a tout le monde qui regarde ce que Dieu va faire. Il y a une tension. Il y a la tension parce que Pierre doit vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit puis dire ce qu'il y a sur le cœur du Seigneur, et toute la famille de Corneille qui attend. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Et Pierre commence, ouvrant la bouche, il se met à prêcher l'Évangile. Et au lieu de repartir sur l'Ancien Testament, puisque ces païens théoriquement ne le connaissent pas, eh bien il part depuis ce qu'ils connaissent. Et il dit plusieurs fois, Vous savez ce qui s'est passé en Galilée quand Jésus a commencé son ministère. Vous savez qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous savez qu'il a fait des miracles. Vous savez qu'il est arrivé jusqu'à Jérusalem. Vous savez qu'on l'a tué, qu'on l'a crucifié, qu'il est mort. Mais vous savez C'était pour le pardon des péchés. Et vous avez entendu dire qu'il est ressuscité. Et nous, on est témoins. Et nous, on a mangé avec lui une fois qu'il était ressuscité. Et ça, ça veut dire que la face du monde a changé. Ça veut dire que nos propres corps, un jour, vont ressusciter aussi. Et il explique les choses. Et pendant qu'il explique, il est rempli du Saint-Esprit. Tout à coup, paf, le ciel s'ouvre encore une fois. Et le Saint-Esprit descend. Et tous les gens se mettent à parler en langue, à louer Dieu, alors que Pierre n'a même pas fini de parler. Il n'y a même pas eu d'imposition des mains. Et même, Pierre n'a même pas eu le temps de dire « Je vais faire un appel, qui c'est qui veut donner sa vie au Seigneur ?» Mais non, les cœurs étaient tellement réceptifs, ils étaient tellement dans l'attente du Seigneur sans même savoir de quoi ils avaient besoin que le Saint-Esprit se déverse, le ciel s'ouvre, encore un mouvement vertical du ciel vers la terre. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ? À un moment donné, les 120 étaient dans la chambre haute et ils priaient. Ils savaient qu'ils devaient attendre un Saint-Esprit, mais ils ne savaient même pas vraiment ce que c'était. Et ils priaient. C'était juif. C'était tous des juifs. Et tout à coup, le ciel s'est ouvert et paf, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est venu des langues comme des langues de feu. Tout le monde parle en langue. C'était des juifs. Et tout à coup, la même situation. Des cœurs complètement tendus vers Dieu, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et paf, la Pentecôte. Pour les païens. Et là, Pierre y comprend. Il est en train de monter d'un niveau et d'un niveau pour comprendre. Waouh, je comprends. On est tous dans la nappe. Mais le salut, c'est pour tous. Il n'y a pas des purs, des impurs, il n'y a pas une élite. Et la Pentecôte, le Saint-Esprit, elle est pour tout le monde. Alors, si c'est pour tout le monde, comment est-ce que ces païens pourraient ne pas être baptisés? On ne peut pas faire du favoritisme si Dieu n'en fait pas. Et il fait baptiser tous ces gens. Et ensuite, il reste avec eux quelques jours parce que ces gens le lui demandent. Ce qui fait que ces gens, ils sont enseignés dans la parole. Ça ne s'arrête pas là, l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, Corneille et toute sa famille. Vous croyez qu'ils vont garder ça pour eux tout seuls? Corneille, il va sûrement faire des voyages à Rome. Il est romain. Il a des comptes à rendre aussi à l'empereur, etc., etc. Et puis la famille, ils vont tous retourner dans leur sphère de connaissance, leur sphère sociale. C'est des païens, c'est des romains. Et là déjà, l'évangélisation des païens commence. Elle a commencé avec l'eunuque éthiopien. Elle continue avec Corneille et son entourage. Et au même moment, Paul est en train de commencer son ministère et lui aussi il va aller chez les païens. C'est un tournant dans l'histoire. Parce que s'il n'y avait pas eu ce tournant-là, les apôtres n'auraient pas compris que la foi en Jésus-Christ, que le salut en Jésus-Christ, il n'est pas que pour le peuple juif. Le peuple juif nous amenait au Messie, à Jésus-Christ. Mais ils en ont autant besoin que nous. On a tellement l'habitude d'être chrétien ici qu'on ne se rend pas compte qu'il a fallu des hommes et des femmes rempli de foi, rempli d'humilité, rempli d'obéissance, pour que nous, on en soit là où on en est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Pierre, il est retourné à Jérusalem. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Eh oui, des fois l'opposition, elle vient de l'Église. Elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Mais Pierre, justement, a recommencé à raconter. « Ben voilà, j'étais sur le toit en terrasse de chez Simon, et puis j'étais en train de prier, j'avais faim, et il y a toute l'arche de Noé qui m'est arrivée, là tout était mélangé, impur, et puis voilà Dieu qui me dit de manger. » Puis il raconte cette histoire. Puis il dit « Mais le pire, c'est qu'au même moment, Corneille chez lui, lui c'est un centenier, c'est un païen, ben, il y a un ange du Seigneur qui lui a dit « Va chercher Pierre à 50 kilomètres, etc. » Et puis quand j'étais en train de prêcher, il y a le Saint-Esprit qui est tombé sur eux, comme pour nous au début. Ils ont vécu la Pentecôte la même que nous, le même Saint-Esprit. Est-ce que je pouvais m'opposer à Dieu? Alors tous se mettent à glorifier Dieu et tous comprennent. Et là, c'est OK. Et là, c'est OK, les païens peuvent être évangélisés. Et il y a eu encore des frictions. Hein. Pierre, il est revenu en arrière, il est revenu en avant. C'est un homme. Il a eu aussi ses problèmes. Il n'est pas parfait. comme chacun d'entre nous. Mais tout ça a donné place à l'évangélisation du monde jusqu'à nous aujourd'hui. Moi, je vous invite à reprendre à un moment donné ce texte et regarder comment le cœur de ces hommes était disposé, mais regardez aussi tout ce que le Seigneur a mis en place, toutes ces interventions surnaturelles, de quelle manière il y a et combien il y a d'interventions surnaturelles. C'est un concentré, tellement c'est important. Et c'est un message qui doit nous parler aujourd'hui. Bien sûr, la reconnaissance qu'une fois des hommes ont parlé, qu'une fois des hommes ont prié, parce que Dieu utilise les humains pour nous amener au salut. Nous sommes tous des serviteurs les uns des autres. Et c'est notre disposition de cœur, notre crainte de l'Éternel qui va faire la différence de la manière dont Dieu veut nous utiliser. C'est important de comprendre dans quel esprit étaient ces hommes pour essayer d'avoir le même esprit, la même compréhension. Et j'aimerais terminer en vous laissant ces deux versets dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 3 et 4. C'est un verset qui doit, enfin deux versets qui doivent nous enseigner par rapport à notre service dans l'Église. Mais ça doit aussi nous enseigner dans notre service, dans notre famille, à notre travail, à l'école, quand on va faire les commissions, quand on va faire des loisirs, sur le terrain de foot. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Si quelqu'un aimerait dire au Seigneur qu'il aimerait aller dans une autre compréhension, qu'il aimerait que son cœur ait cette même crainte du Seigneur pour pouvoir influencer, pour pouvoir changer le cours de l'histoire seulement selon ce que Dieu a dit, c'est peut-être juste pour changer la vie d'une personne, c'est peut-être pour changer sa famille, c'est peut-être pour changer ce que Dieu aura choisi de changer. Si une personne aimerait entrer dans ce cœur de service comme Corneille, comme Pierre, eh bien on va prier. Et s'il y a quelque chose en vous qui vous dit, mais il y a quelque chose là que j'aimerais aller plus loin dans ma consécration, ben je vous invite à vous lever et on va prier. Père, merci parce que tu as ton regard posé sur chacun de nous. Merci Jésus, tu es au milieu de nous par ton Saint-Esprit et tu vois comme nous sommes debout devant toi. Seigneur, tu connais nos cœurs. Pour chacun d'entre nous, tu sais où on en est, tu sais là où ça bataille, là où on aimerait tellement te servir et on a tellement de peine. Tu sais combien on aimerait être en train de prier sans cesse, combien on aimerait bénir en faisant des aumônes, combien on aimerait recevoir tes directions, combien on aimerait entendre ta voix, combien on aimerait aller servir là où tu nous dis de servir. Seigneur, tu sais aussi toutes les fois où on s'est mis au-dessous ou au-dessus des gens que tu nous confies. Tu sais exactement quand on se prend pour plus que ce que nous sommes. Tu connais notre prétention, tu connais tout ce qui est tordu dans nos cœurs, mais tu sais aussi comment tu veux nous utiliser. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre prétention. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous recherchons notre propre intérêt plutôt que tes intérêts à toi, ou que les intérêts des autres. Seigneur, moi je te demande pardon de rechercher toujours mes propres intérêts, d'avoir tellement de mal à me donner, d'avoir tellement de mal à oublier ma vie pour te laisser agir au travers de moi. Pardon pour mes résistances, pardon pour tout ce qui me paraît plus important que t'obéir. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, de venir rejoindre nos cœurs dans nos faiblesses, dans nos défaillances. Et que ton Saint-Esprit vienne nous restaurer, nous purifier, nous laver. Jésus, que l'eau de ta parole nous lave encore. Purifie-nous, purifie nos cœurs, purifie nos intentions. Saint-Esprit, viens nous renouveler. Renouvelle ton onction en chacun d'entre nous. Montre-nous comment consacrer nos cœurs. Montre-nous comment recevoir ta parole. Montre-nous comment prier sans cesse. Rappelle-nous jour et nuit, rappelle-nous. Rappelle-nous d'être en prière. Rappelle-nous de toujours te poser des questions, de toujours t'écouter à chaque instant, même dans les activités de la vie quotidienne. Viens, Saint-Esprit, restaure encore notre âme. Viens à notre secours. Réponds à nos prières et utilise-nous. Utilise cette Église. Utilise-nous en tant qu'Église, en tant que communauté. Et utilise-nous de manière personnelle. Viens, change le cours de l'histoire au travers de nos vies. Change le cours de l'histoire de nos familles. Change le cours de l'histoire de nos places de travail, de nos collègues, des personnes que nous côtoyons dans nos loisirs, que nous puissions faire la différence, simplement parce que nous sommes remplis de toi et parce que tu agis. Aide-nous à comprendre ce que tu veux de notre vie, à chacun là où nous sommes. Manifeste-toi avec puissance. Seigneur, montre-nous à chacun d'entre nous, montre-nous quel est le niveau supérieur que tu veux nous faire atteindre. Pour la gloire de ton nom, pour l'avancée de ton règne. Oh Jésus, merci et merci parce que tu t'es donné pour nous purifier, pour nous laver, tous dans la nappe, mais tous purifiés par ton sang. Béni sois-tu Seigneur. Merci. Merci pour les témoins qui nous ont amenés jusqu'à toi et merci de faire de nous des témoins qui en amèneront d'autres jusqu'à toi. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Amen.